Bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous. En ce lendemain de réveillon, je vous propose de vous échapper loin des sapins, des dindes et des bûches. Nous allons remonter jusqu'à l'origine de l'univers et en chemin, nous nous interrogerons sur la notion de temps. Car temps et espace sont intimement liés. L'être humain a passé des millénaires à construire des calendriers en s'appuyant sur la ronde des astres. Aujourd'hui, il est en mesure d'estimer l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Mais que signifie cet âge maintenant que l'on sait que le temps est relatif et qu'il ne s'écoule pas partout de la même façon? Et à présent, voilà qu'une question se met à tarauder les scientifiques. Et si le temps n'existait pas? On aimerait comprendre, mais attention, gueule de bois ou pas, il se peut que nous soyons pris de vertige en nous penchant sur l'espace-temps cet après-midi avec notre invitée, l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Nous sommes en direct et pour lui adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Et cette semaine, c'est Agnès Fèvre qui s'occupe de la une de la science. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
À la une aujourd'hui, la contribution majeure des champignons à une atmosphère plus respirable il y a 450 millions d'années.
Et oui, grâce aux plantes et à la photosynthèse, notre atmosphère est devenue plus riche en oxygène et donc plus fréquentable. Mais les plantes n'y seraient pas arrivées sans les champignons. Et on en sait un peu plus sur cette symbiose, on la décrypte avec le biologiste Marc-André Selosz.
Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisée par Céline Hila est préparée par Thomas Lehété et Thomas Kalevitch.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Sylvie Vauclair.
Bonjour Daniel.
Merci d'être venu jusqu'à nous depuis Toulouse en ce 25 décembre. Joyeux Noël à vous.
Joyeux Noël aussi à tout le monde.
Vous êtes astrophysicienne. Votre dernier livre paru chez Odile Jacob s'intitule « De l'origine de l'univers à l'origine de la vie, une virgule dans l'espace-temps ». La virgule dans l'espace-temps, c'est nous, ce sont les êtres humains.
La virgule, c'est nous. Parce que la grande question qui se pose, surtout quand on étudie ces immensités dans le temps, immensité dans l'espace, c'est qui sommes-nous, les êtres humains sur la Terre. Mmh. Et j'aime bien cette idée que nous sommes une sorte de repos, de personnages qui pensent cet univers. Et donc, il m'est venu cette idée de virgule.
Oui.
Nous sommes une virgule.
On est souvent pris de vertige en lisant votre livre, votre ouvrage. Est-ce que vous-même, quand vous réfléchissez à l'origine de l'univers jusqu'à l'origine de la vie, l'apparition du vivant sur Terre, il vous arrive d'être prise de vertige?
Ah oui, tout à fait. Absolument. Ouais. Vous savez, quand on travaille, quand on fait le travail précis de journellement, on n'y pense pas trop. Mais dès qu'on prend un peu de recul, tout de suite, on a du vertige.
Ouais. On part pour un grand voyage cosmique, explorer les zones d'ombre de l'espace-temps dans la tête au carré cet après-midi. Avec vous et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Les champignons au menu de la une de la science et leur rôle dans l'apparition de la vie animale et végétale.
Il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais la vie trouve toujours un chemin.
La vie trouve toujours un chemin. Il a fallu que notre atmosphère devienne suffisamment riche en oxygène pour que des espèces animales et végétales se développent sur Terre. C'était il y a environ 450 millions d'années et les champignons ont joué un rôle majeur à cette époque. Des scientifiques britanniques se sont intéressés à leur échange avec les plantes qui fabriquent l'oxygène. Leur article est publié dans la revue Psychological Transactions de la Royal Society et Agnès, on en parle avec notre invité.
Marc-André Selosz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste spécialisé en mycologie et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, entre les plantes et les champignons, on connaissait ce partenariat, cette symbiose, vous l'avez longuement décrite. Mais là, les chercheurs de l'Université de Leeds ont voulu quantifier cet apport des champignons aux plantes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, c'est une symbiose qui est universelle actuellement encore. Ce sont les vestiges de ce qui s'est passé aux origines de la flore terrestre. Il y a 470 millions d'années, ce qui est sorti de l'eau, ce sont des algues accompagnées de champignons. Et ce que font ces scientifiques, c'est d'essayer de faire tourner des modèles en les nourrissant de données actuelles, pour essayer de quantifier les conséquences sur l'atmosphère de ça. Alors en effet, quand on passe de ce qui se passait avant, il y avait des croûtes un peu comme sur des façades ou sur des falaises, des petites croûtes avec des petites algues microscopiques Quand on voit apparaître les premières plantes, alors là tout change. Pourquoi ? D'abord parce que ces plantes, c'est beaucoup plus de CO2 qui passe dans la masse des plantes. D'autre part, les champignons auxquels elles sont associées, qu'elles nourrissent, qu'elles aident à se développer, vont aller altérer les roches, libérer et dissoudre les composants de ces roches. Alors ça, ça a trois conséquences importantes. La première, c'est qu'il y a beaucoup de CO2 qui passe dans les plantes. La deuxième, c'est que comme elles libèrent des sels minéraux, ceux-ci vont aller précipiter en mer, et bah sous forme de calcaire, et les carbonates formés pompent encore du CO2. Donc ces deux premiers points font diminuer la teneur en CO2 de l'atmosphère, et ça refroidit le climat. Et puis aussi une autre chose, toute cette masse végétale formée, et les cadavres aussi qui s'accumulent dans les premiers sols, bah c'est autant d'oxygène qui reste dans l'atmosphère. La teneur en oxygène augmente, elle atteint des niveaux quasi actuels, mais surtout elle atteint des niveaux où par exemple peuvent se produire des incendies. Des incendies qui n'existaient pas auparavant. Mais il y a assez d'oxygène pour que les feux se propagent. Donc c'est des modifications majeures qui mettent en place les écosystèmes, l'atmosphère et le climat modernes.
Et donc ce qu'ils essayent de voir, c'est ce que les champignons apportent en particulier en nutriments, en minéraux à ces plantes, parce qu'elles n'auraient pas pu réaliser cette photosynthèse seules visiblement à cette période.
En fait, si ça a attendu tellement de temps pour avoir des grosses plantes sur Terre, c'est juste que cette symbiose, cette association entre un champignon et une plante, ne s'était pas mise en place. Et c'est au moment où elle se met en place que tout bascule, qu'un autre possible devient réalité.
Sans les champignons, on n'en serait jamais arrivé là où nous en sommes, c'est ce que vous nous dites. Finalement, ils ont joué un rôle déterminant.
On ne serait pas là.
Oui, parlant de nous, il n'y a pas que le climat et l'atmosphère qui ont changé. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a eu assez d'oxygène pour que se développent de plus gros animaux dont la respiration est plus exigeante. Alors, on a vu apparaître de gros prédateurs dans l'eau, parce qu'il y avait déjà des animaux dans l'eau avant. Plus actifs, et on a surtout vu les premiers animaux sortir de l'eau, maintenant qu'il y avait à manger sur Terre. Et avoir assez d'oxygène pour se dresser, se déplacer sur Terre.
Donc
et
après 400 ancêtres. Millions d'années.
Et effectivement, ça n'a été possible qu'après que cette symbiose se soit opérée, que les premières plantes soient apparues sur Terre. Et c'est de nous que ça parle, car on ne serait pas à la tête au carré aujourd'hui si nos ancêtres n'étaient pas sortis parmi ces premières plantes.
Ouais. Agnès.
Et comment on mène ce genre d'expérience en laboratoire? Comment on peut recréer les conditions de l'atmosphère d'il y a 400 millions d'années?
Alors pour revenir à cet article, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de nourrir des modèles de composition de l'atmosphère, des modèles informatiques, avec des expériences qui avaient été réalisées par certains auteurs auparavant. Alors c'est là que c'est un peu savonneux, parce que ces expériences ont été réalisées en mettant des plantes actuelles, avec des champignons actuels, dans des conditions d'atmosphère qui sont celles du moment où ces organismes sont sortis de l'eau. Et là, on arrive à voir à quelle vitesse se fait la photosynthèse, à quelle vitesse s'accumule la matière organique, à quelle vitesse s'altère la roche. Bon, le problème, c'est qu'on remet des plantes actuelles qui ne vivent plus dans ces conditions, dans les conditions d'alors.
Il y a un certain anachronisme, finalement, dans cette façon de faire.
Absolument. Mais comment faire autrement?
Oui.
Et la grande vertu de ce papier, c'est pas tellement les données qu'on met dedans, que je trouve glissante, j'ai dit savonneux, bon, c'est surtout de commencer à avoir une approche quantitative, de pas gesticuler en disant « Ah, il y a plus d'oxygène, il y a moins de CO2 dans l'atmosphère », c'est d'essayer de quantifier sur la base de données réalistes autant que possible. Et c'est le pas en avant de ce papier qui, à mon avis, en précède bien d'autres pour arriver vraiment à reconstituer comment, finalement, c'est le monde vivant qui a gouverné l'évolution de l'atmosphère.
Mmh. Et à cette période, donc, les plantes n'avaient pas encore de racines, d'où cette symbiose avec les champignons. Oui. Et ces champignons en particulier là, qui entretiennent ce partenariat avec les plantes, c'est des champignons qu'on retrouve encore aujourd'hui. À quand remonte l'apparition de ces champignons-là?
Donc, ils ont dû avoir des ancêtres dans l'eau, ça c'est très mal connu. Hein. Mmh. Et ils sont sortis de l'eau avec les plantes, parce que eux aussi sont vitalement dépendants de ces plantes. Et les plantes, elles, descendent d'algues qui n'avaient pas de racines. On le voit tous les jours quand on va au bord de la mer, les algues sont tout au plus attachées, elles n'ont pas de racines. Donc quand elles arrivent sur Terre et où il faut qu'elles se nourrissent du substrat, du minéral qui est en dessous, bah, elles n'ont pas l'équipement pour ça et elles dépendent vitalement des champignons qui, eux, sont capables d'aller explorer ce substrat.
C'est assez fascinant d'imaginer ce monde très lointain. On remonte là à 400-450 millions d'années et où on se rend compte que le sol ne ressemble pas à celui qu'on connaît. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'humus, les plantes n'ont pas de racines. Tout ça est complètement différent de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui.
Ah oui, alors les sols vont apparaître lentement justement sous ces plantes et encore plus quand elles vont ensuite inventer les racines. Mais il faut se souvenir qu'elles les ont inventées simplement pour augmenter leur interaction avec des champignons. Et ça, on l'ignore souvent, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que les racines font le boulot. En fait, c'est surtout des façons d'interagir plus et mieux avec le champignon, de le nourrir plus encore, et de l'aider plus encore à aller altérer la matière organique. Et vous avez raison, une des choses qui apparaît à ce moment-là, et qui n'existait pas avant, c'est les sols. Cette espèce de pellicule qu'on a sous nos pieds, qui n'est ni du minéral, ni de l'organique, mais qui est par contre ce dont sort toute vie terrestre.
Sylvie Vauclair, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention. Il y a un lien de parenté entre ce qu'on est en train d'entendre là, sur l'enchaînement, les séquences. Chaque événement en appelle un autre. C'est quelque chose auquel vous êtes très sensible dans votre livre.
Oui, tout à fait. Je pense que cette période donc, où l'atmosphère terrestre a été transformée pour donner beaucoup d'oxygène, c'est aussi par conséquence la formation de l'ozone dans la haute atmosphère, et l'ozone a été fondamentale pour éviter, empêcher les rayonnements célestes très nocifs d'arriver jusqu'au sol. Donc il y a vraiment quelque chose de fabuleux et d'apprendre. Je ne savais pas, moi j'apprends là que c'était grâce à des champignons. D'accord. Et je crois que les champignons à l'époque actuelle sont aussi très importants pour faire communiquer les arbres entre eux, par exemple, des choses comme ça. C'est fabuleux les champignons.
Ouais. Vous n'allez pas dire le contraire, Marc-André.
Non, moi je suis mycologue surtout. Mais effectivement, alors vous posez la question de savoir si ces champignons sont toujours là. Eux, non. Leurs descendants, oui. Et actuellement, 9 dixièmes des plantes ont encore des champignons sur leurs racines. Elles en dépendent vitalement. Ces champignons les nourrissent, les protègent, effectivement établissent éventuellement des interactions entre les plantes voisines qu'ils colonisent simultanément. Et c'est encore quelque chose, cette histoire-là a une résonance actuelle très forte.
Et favorise toujours à la baisse du CO2.
Alors, question plus actuelle. Ça continue. Et même il y a un moment, on pense, il y a 55-60 millions d'années, où les plantes des régions ont changé de partenaire. Elles ont commencé à s'associer pour certaines d'entre elles à des champignons qu'on connaît bien, les truffes, les cèpes, les girolles, nos champignons forestiers. Et eux sont beaucoup plus actifs dans l'altération du sol, enfin de la roche. Et donc ils ont amplifié cet effet de consommation de CO2 par la précipitation de calcaire au fond de l'océan suite à leur libération de calcium qui retourne à l'océan. Et du coup, ils ont précipité un refroidissement encore qui va nous amener jusqu'aux glaciations du Quaternaire.
Voilà, ils ont donc un rôle dans le climat, ces champignons, et ils auront un rôle à jouer.
Ils ont la main sur le radiateur, oui.
Merci pour la formule, elle est jolie. Merci Marc-André Sellos. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes et les animaux et les civilisations » publié chez Actes Sud. On mettra bien sûr le titre de votre ouvrage sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et merci Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, peut-être une piste pour expliquer l'inégalité des hommes et des femmes devant certaines maladies, en essayant de comprendre l'importance de la flore intestinale pour le bon fonctionnement des cellules protectrices du cerveau. Des chercheurs ont mis en évidence des disparités entre hommes et femmes. Ils ont étudié le cerveau de souris, puis d'embryons humains dépourvus de microbiote. Résultat, selon le sexe de l'animal, la défaillance des cellules impliquées dans le développement et le fonctionnement du cerveau survient à différents stades de l'évolution des sujets. Cette étude pourrait en partie expliquer que lors de déséquilibres dans la flore intestinale, certains troubles ou maladies touchent plus les hommes, c'est le cas pour l'autisme, ou les femmes, c'est le cas pour la sclérose en plaques. La commune de Tourouvre en Normandie ne fête pas uniquement Noël en cette fin d'année, mais également le premier anniversaire de sa route solaire, équipée de 2800 mètres carrés de panneaux solaires collés sur un kilomètre de chaussée. La départementale n'a pas atteint tous les objectifs escomptés. D'après la société responsable de l'ouvrage, 149 millions de watts-heure ont été produits, soit 53% de ce qui était prévu. Par ailleurs, la route solaire s'est avérée bruyante pour les riverains et la limitation de vitesse a dû être abaissée à 70 km/h. Loin d'être découragés, les acteurs du projet travaillent à la conception de nouvelles dalles solaires plus plates et plus solides. Et on revient aux champignons avec la découverte d'une truffe sur les toits de Paris. C'est un chercheur en écologie urbaine qui l'a trouvée sur le toit végétalisé de l'hôtel parisien au pied d'un charme. Elle correspond à une espèce comestible, quoique peu consommée. C'est en effet ce qu'indiquent les spécialistes du Muséum National d'Histoire Naturelle qui ont analysé les champignons. D'après eux, Tuber brumal, c'est le nom de ce champignon, apparaît plus communément dans les mêmes régions que la truffe noire du Périgord, dans des sols secs et calcaires. Cette étonnante découverte souligne le fort potentiel des toitures végétalisées dans le développement de la biodiversité urbaine. Dans un instant, on part à la découverte des mystères de l'espace-temps dans la tête au carré. Notre invitée, l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, attend vos questions sur la page de l'émission sur franceinter.fr.
C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longe la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied elle longe la Seine, marchant d'un pas lent. Puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Charmant Noël. Or voilà que sur le pont ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle des bottes aux gants, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre près du pont de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Et ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière quand il l'embrassa. Heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Eux qui avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
C'était Barbara qui vous souhaitait un joyeux Noël.
La tête au carré sur France Inter.
L'homme a toujours voulu découper le temps. Le grand problème, c'était la nuit.
X chose, ça n'avance pas. Cela fait 2 ans que ma pyramide est en construction. Au train où tu vas, elle ne sera pas terminée pour mon enterrement.
Et les ouvriers travaillent de la première à la dernière heure de la journée au pharaon. Je n'ai pas assez d'hommes.
Eh bien, je n'en ai pas d'autres. Fais-les travailler après le coucher du soleil.
Je ne peux compter que les heures de soleil.
Mais si, on peut compter les heures de la nuit. Regarde, ô pharaon, l'eau s'écoule régulièrement de ce récipient. J'en ai marqué le niveau à chaque heure du jour. L'eau, elle s'écoule aussi la nuit. Donc, on peut mesurer le temps en l'absence du soleil.
Un extrait de « Il était une fois les découvreurs », invité de la tête au carré cet après-midi, Sylvie Vauclair, astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, auteur chez Odile Jacob de « L'origine de l'univers à l'origine de la vie », une virgule dans l'espace-temps. Une part de votre livre est consacrée au temps, cette dimension qui n'en finit pas d'interroger les astrophysiciens. D'ailleurs, très tôt dans l'histoire de l'humanité, les hommes se sont raccrochés à la mécanique céleste, à la ronde des astres, pour établir les calendriers, pour tenter de mesurer le temps, poser des jalons.
Oui, je pense que depuis toujours, depuis l'origine de l'humanité, les gens ont pas mesurés, mais se sont fixés dans le temps à partir des astres. Par exemple, bon, les Indiens qui parlaient de lune et puis le soleil. Donc, c'est toujours les astres qui ont été à l'origine du temps. Mmh. Et c'est vrai qu'on a cherché, les hommes ont cherché à quantifier ça pour fixer un écoulement du temps qu'on puisse mesurer au jour le jour. Et là, c'est vraiment très, très difficile parce que il y a des choses naturelles. Par exemple, le mouvement de la Terre autour du Soleil, qui est l'année, le mouvement de la Lune autour de la Terre, qui est le mois, la rotation de la Terre sur elle-même, qui est la journée. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas des multiples les uns des autres. Mmh. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc, quand on veut construire quelque chose qui s'appelle un calendrier en mettant tout à la fois, ouais, ça marche pas parce qu'on n'a pas un nombre de jours, dans l'année, un nombre de jours fixe et précis. On n'a pas non plus dans le mois. Et en plus, les mois ne sont pas tous les mêmes parce que le mouvement de la Lune autour de la Terre, il change. Ouais. Donc, c'est très compliqué.
Ouais. Et ce qui explique que, finalement, dans des civilisations assez différentes, sont apparus des chiffres communs. Ce fameux 12, des 12 mois de l'année, c'est 30
c'est
rotations
près
de la Terre.
Oui, puis c'est le mois, c'est le mouvement de la Lune autour, ouais, de la Terre, et l'année, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil, et il se trouve qu'à peu près, il y a 12 mois dans une année, mais à peu près, c'est, ouais, pas exact. Le, ouais, problème, ouais, c'est que c'est pas exact.
À quand remontent les premiers calendriers? On a une idée?
Oh, bah, je ne sais pas, moi je connais les calendriers mayas, je pense que ça fait des milliers d'années. Il y a aussi, ouais, avant Jésus-Christ, aussi les Sumériens. Donc les Sumériens, c'est aussi plusieurs milliers d'années, de je sais pas 3000-4000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient déjà des calendriers. On a dans l'écriture des Sumériens, la gravée dans la pierre, on a des indications de calendriers, on a des indications de chiffre 12, on a des indications de chiffre 60 aussi.
Alors le chiffre 60 qu'on retrouve dans les 60 minutes qui composent une heure, les 60 secondes qui composent la minute, il sort d'où ce 60?
Alors on sait pas exactement, mais il se trouve que il y a 30 jours à peu près dans un mois, 12 mois à peu près dans l'année. Et si vous prenez le premier nombre qui peut être à la fois un multiple de 12 et un multiple de 30, c'est 60. Donc c'est assez normal d'être tombé sur ce nombre 60. Mmh. Et en plus, si on considère, alors ça c'est encore le nombre 12 qui est arrivé pour les heures dans la journée, qui a été ensuite multiplié par 2 parce qu'il y a les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit. En fait, tout ça c'est un petit peu compliqué pour arriver à 24. Si on divise ces heures en 60 pour avoir les minutes et en 60 pour avoir les secondes, on arrive à une quantité qui est la seconde, qui est proche des battements du cœur, des battements du cœur humain. Ouais. Donc il y a certainement eu quelque chose à voir avec le battement du cœur qui bat la seconde à peu près.
Et alors, au fur et à mesure que tout ça a évolué, il y a eu des changements parce que à une certaine époque, la durée des heures variait en fonction. Comme la nuit était parfois plus longue, le jour parfois plus court, mais il fallait toujours que ça fasse 12 heures. Donc du coup,
voilà,
on adaptait la durée des heures.
Au début, le jour était divisé en 12 et la nuit était divisée en 12. Et comme évidemment, le jour et la nuit n'ont pas les mêmes durées et suivant les saisons, la valeur précise des heures changeait.
Cette mesure du temps est restée ancré. Hein. Les essais de changement lors de la Révolution, notamment, on a voulu passer à un système décimal.
C'est très amusant. Ça moi, j'ai découvert ça quand j'ai fait quelques recherches pour ce livre et j'ai trouvé ça très drôle. Ouais. C'est que à la Révolution française, les révolutionnaires ont voulu instaurer le système décimal, donc le système métrique pour les distances et tout, et ça a marché. Ouais. Et voulaient aussi instaurer le système décimal pour le temps, c'est-à-dire qu'il y aurait eu 100 secondes dans une minute ou quelque chose comme ça. Et ça n'a pas marché. Ça, c'était pas possible. Et probablement parce que c'était trop difficile par rapport au mouvement des astres, etc. Il y a un décret. Il y a un décret qui est paru quelques années plus tard, disant on garde le système métrique, ça c'est définitif, mais pour le temps, on revient au système hexadécimal. On ne garde pas le système métrique définitivement. C'est-à-dire que revient définitivement au système hexadécimal. Ouais.
C'est-à-dire que pour l'espace, ça paraissait possible arbitrairement de choisir comment on mesure les distances, les poids.
Oui.
Mais par contre,
mais pas pour le temps.
Pour le temps, on
pas
peut pas s'affranchir temps. De la ronde des astres, du temps d'une journée.
Exactement, c'est trop compliqué.
Alors évidemment, la Terre tourne aujourd'hui sur elle-même en 24 heures, mais ça aussi, ça n'est pas de toute éternité. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Oui, parce que la Terre se ralentit sur son axe. La Terre tourne de plus en plus lentement. Et ça, c'est lié à la présence de la Lune. La Lune s'éloigne de la Terre de à peu près 3 cm par an. Et tout compris, le système Terre-Lune a cette... la Terre a cette réaction par rapport à l'éloignement de la Lune. Ça va ensemble. Oui. Elle se ralentit.
Ce qui fait que si on remonte, il y a 400 millions d'années...
Il y avait moins de jours dans une année parce que les jours étaient plus longs.
Oui. Non, les jours étaient... La Terre tournait un peu plus rapidement.
Terre tournait plus rapidement, ouais. Oui.
Donc les jours devaient être plus courts, du coup, si la Terre tournait plus vite.
La Terre tournait plus vite, oui, pardon.
Les jours devaient être plus courts. Donc il y avait plus de jours dans une année. Au temps des Romains, on se basait sur le calendrier julien, qui ressemblait beaucoup à notre calendrier actuel, mais qui n'était pas exactement le même. Et d'ailleurs, ça s'est décalé un petit peu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le calendrier julien, bon, je ne vais pas détailler le nombre de mois, mais il était il était à peu près correct pour retrouver. Il avait une année bissextile déjà. Ouais. L'année bissextile, c'était une fois tous les 4 ans, un jour de plus pour arriver à recaler, pour mieux recaler l'année justement sur les saisons. Mais ça suffisait pas, c'était pas bien précis. Et petit à petit, ce calendrier s'est décalé. S'est décalé à l'époque, enfin au XVIe siècle, le décalage était de 11 jours par rapport au solstice d'hiver. Vous savez, le solstice d'hiver, c'est le moment où les nuits sont les plus longues. Et le 1er janvier, je donne ça comme exemple, était décalé de 11 jours.
Ouais. Et alors, il a fallu recaler.
Voilà, c'est le pape Grégoire XIII qui s'est ému de ça, qui a voulu le recaler. Donc, il a, avec évidemment des aides, des conseillers, il a rétabli un autre calendrier, qui est le calendrier grégorien, qui est le nôtre maintenant. Et pour recaler avec les saisons, eh bien, il a fait sauter 11 jours du calendrier.
Donc on était au XVIe siècle, il y a
En 1582.
Ouais, on est passé comme ça.
Oui, je crois que c'est entre le 5 et le 15 octobre, si je me rappelle bien, où il n'y a pas eu de jour, quoi. C'était le lendemain du 5 était le 15.
Ouais.
Et alors ça, c'est assez amusant. Et c'est comme c'était le pape qui a décidé ça. Les pays qui n'aimaient pas trop le pape, comme l'Angleterre par exemple, qui avait déjà fait sa réforme, n'ont pas accepté tout de suite ce calendrier. Donc il y a eu de longues périodes.
Pendant plusieurs siècles, tout le monde n'était pas le même jour.
Sur la Terre, tout le monde n'avait pas le même calendrier.
Ouais. On n'était pas le même jour pour tout le monde.
Et puis il y a des histoires drôles, comme la mort de Shakespeare et de Cervantes, qui sont morts tous les deux le même jour dans leur calendrier respectif. Mais en fait, ça faisait 11 jours de différence, parce qu'il y en a un qui est mort en Espagne, qui avait déjà adopté le calendrier du pape, et puis l'autre en Angleterre qui ne l'avait pas encore accordé.
Alors aujourd'hui, on a complètement calé notre calendrier de façon plus précise. Hein. La dérive ne se fait plus parce qu'on rajoute ce qu'il faut au bon moment, les jours comme il faut.
En tout cas, la dérive ne se fait plus à notre échelle, à nous, à l'échelle de l'humanité. C'est vrai que sur des millénaires, il faudra peut-être, dans l'avenir lointain, recaler un petit peu.
Ouais. Mais pour mesurer le temps de façon encore plus précise, aujourd'hui, on ne se base plus sur les astres, mais sur les atomes.
Le maître du temps en France aujourd'hui, c'est à l'Observatoire de Paris qu'il se dissimule. Rien d'étonnant, c'est ici qu'autrefois on mesurait le temps par l'observation des astres et l'étude de la rotation de la Terre. Mais la Terre n'était pas si ponctuelle, et aujourd'hui on est 100 000 fois plus précis qu'elle. On est passé de l'infiniment grand à l'infiniment petit, l'atome. Ce temps nous est ensuite redistribué par l'horloge parlante au centième de seconde près. Tous les pays définissent ainsi leur heure officielle, et c'est grâce aux satellites qu'ils peuvent se coordonner. Et le vrai gardien du temps, c'est en fait le Bureau international des poids et mesures, installé à Sèvres. Il fait la moyenne de toutes les heures du globe pour donner le temps universel coordonné. Une précision d'un milliardième de seconde qui peut compter dans notre vie quotidienne.
Un extrait du journal de France 2, du 13h de France 2, daté de février 2000. C'est étonnant de voir que pour gagner encore en précision, maintenant c'est plus le ciel et l'infiniment grand que l'on regarde, c'est l'infiniment petit. C'est au cœur des atomes que l'on trouve la précision.
Oui, alors là, il ne s'agit pas de la précision pour nos rendez-vous, par exemple, mais des instruments comme les GPS qui ont besoin, et tout ce type d'instruments qui ont besoin de mesurer le temps avec une précision extrême pour pouvoir vous localiser correctement sur la Terre depuis les satellites. Et donc là, la seconde astronomique, qui est un 1/60 de minute, était un petit peu trop fluctuante. Et donc les scientifiques ont décidé, et au niveau international, de donner une autre définition de la seconde à partir d'un cristal de césium. Mmh. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que la minute, l'heure, le jour sont toujours astronomiques. Mmh. Et en principe, la seconde, elle doit quand même être un 1/60 de minute. Donc, mmh. ils ont ajusté le mieux possible, mais pas tout à fait. Et là aussi, il y a un décalage. Mmh. Et quelquefois, vous avez des minutes qui font 61 secondes mmh. au lieu de 60 pour arriver à recaler la seconde atomique avec la minute, mmh. disons, astronomique.
Ça, c'est tous les deux ans en moyenne, voilà. On rajoute une seconde intercalaire à l'année pour rééquilibrer.
Personne s'en aperçoit, oui, sauf les GPS.
Mais alors maintenant qu'on a l'impression qu'on mesure le temps avec cette précision extrême, cette minutie, voilà que tout se dérobe à nouveau puisque les scientifiques nous disent depuis Einstein qu'en fait le temps ne s'écoule pas de la même façon partout.
Oui, là il s'agit de la mesure du temps pour nous sur la Terre. Et il faut prendre du recul, il faut aller au-delà maintenant qu'on étudie l'univers dans son ensemble et on se pose la question, est-ce que le temps est le même pour tout le monde ? Mmh. Et la réponse est non. La réponse, c'est donc quand je dis pour tout le monde, je veux dire s'il existait des gens sur d'autres planètes lointaines ou dans mmh. d'autres galaxies, le temps ne serait pas exactement le même.
Oui, et on va voir que des expériences très concrètes prouvent que le temps ne s'écoule pas de la même façon partout. Ce sera dans un instant, suite de nos investigations à travers l'espace-temps, pour adresser vos questions à notre invité. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Ce balancier, enfin cette lampe, vous voyez, c'est comme si elle marquait le temps.
Le temps est éternel, mon fils.
Ça n'empêche pas de le mesurer.
Va en paix.
C'était Azaman, chanté par Imaran sur France Inter dans La Tête au Carré.
Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait.
Gargantua ? Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui.
Celle de Miller est sur son horizon?
Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir.
Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer.
Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
Annoncez la couleur.
Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... cette année sur notre vieille Terre.
Non, non, j'ai...
Bah quoi, les amis, c'est la relativité.
Un extrait du film Interstellar, de l'origine de l'univers à l'origine de la vie. Tel est le titre du dernier livre de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, paru chez Odile Jacob. Sylvie Vauclair, le temps ne s'écoule pas de la même façon selon l'endroit où on se trouve.
Eh oui, c'est assez difficile à imaginer, mais c'est la vérité.
Ça dépend de quoi ?
C'est-à-dire, ben, ça dépend de plusieurs choses. Par exemple, ça dépend de la vitesse. Si vous regardez quelqu'un, qui s'éloigne, par exemple, eh bien, le temps, pour vous, vous avez l'impression que le temps s'écoule plus lentement que ce que ressent la personne sur place. Mmh. Et donc, vous avez cette histoire bien connue des jumeaux. Si vous avez deux jumeaux sur la Terre, il y en a un qui s'en va dans l'espace et qui revient. Il revient plus jeune que celui qui est resté. Ça, c'est la réalité scientifique. Et ça a été mesuré, pas pour des jumeaux, mais ça a été mesuré pour des particules. Ouais. Des particules élémentaires qui ont une certaine durée de vie, des particules radioactives. Puis des horloges aussi, des horloges atomiques qu'on envoie en avion.
Ce sont des expériences très concrètes qui ont été faites.
Hein.
On n'est plus dans la théorie. Là.
Ah non, on n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans l'imagination, on n'est pas dans Interstellar. Enfin, Interstellar a raison. Enfin, ça, c'est exact. Mais c'est vraiment la réalité scientifique.
Si on envoie une horloge
faire un voyage en avion, ça a été fait, l'expérience a été faite, faire le tour de la Terre, ou plusieurs fois le tour de la Terre, ou dans un sens et dans l'autre, et finalement on mesure, on trouve un temps différent, le temps s'est écoulé différemment. Et ça, c'est la vitesse. Mais il y a la gravité aussi, l'effet gravitationnel est réel. Ouais. C'est-à-dire qu'au ras du sol, et ça aussi on parlait des GPS tout à l'heure, les GPS ils ont besoin de ça, ils ont des corrections pour le temps qu'ils mesurent, des corrections de relativité à cause de la gravité.
Parce que
le temps qui est sur le temps qui s'écoule sur le sol n'est pas le même que le temps qui s'écoule
pour les satellites.
Sur les satellites, à, je ne sais pas, moi, 20 000 km de hauteur ou quelque chose comme ça.
Oui, ça,
c'est pas grand-chose, encore une fois, mais la précision des GPS est tellement importante, c'est tellement précis qu'il faut en tenir compte. Oui. Sinon, ce serait faux. Sinon, on vous donnerait des indications dans votre voiture qui seraient à quelques kilomètres plus loin.
Mais alors, très concrètement, ça veut dire qu'il y a des planètes, des galaxies lointaines où le temps ne s'écoule pas de la même façon que pour nous sur Terre ?
Si on dit les choses, globalement, le temps s'écoule différemment partout. Évidemment, la différence n'est pas grande. Mais ça dépend de la vitesse des objets, ça dépend de leur masse, ça dépend de toutes sortes de choses, de paramètres qui font que le temps n'est pas universel.
Alors, le temps n'est pas universel, mais alors si le temps ne s'écoule pas de la même manière partout, quel sens cela a-t-il de donner un âge à l'univers ? On nous dit que l'univers a 13,8 milliards d'années. Ça correspond à quoi ?
Voilà. Alors, en fait, l'univers, et ça, c'est des résultats d'observation, l'univers est en expansion. C'est un espace qui s'étend en permanence. Et il est possible, et ça c'est les calculs scientifiques évidemment, il faut faire un petit travail pour ça, mais il est possible d'avoir accès au temps d'expansion, le temps d'expansion de l'univers. Et ça, on peut considérer ça comme un temps cosmique, un temps de référence. Et ce temps de référence permet de dater l'univers, l'âge de l'univers, et aussi tous les événements, parce qu'on en vient là, parce qu'en fait, finalement, vous le parlez de l'origine de l'univers à l'origine de la vie, c'est-à-dire un déroulement d'événements, mais pour pouvoir faire un déroulement d'événements, il faut savoir ce qu'on entend par le temps. Donc c'est pour ça que dans le livre, je commence à parler du temps avant de parler de ce déroulement. Ouais. Mais ce déroulement, on arrive à la conclusion qu'on peut le donner, ce déroulement, puisqu'on peut définir un temps de référence, d'expansion de l'univers, et donc pas seulement d'expansion de l'univers, mais de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans l'univers depuis ses premiers instants.
Et ce temps de référence est-il très différent, s'écoule-t-il très différemment de celui que nous ressentons sur Terre ?
Alors nous ne vivons pas très, très exactement selon le temps de référence. Notre écoulement du temps est différent parce que nous sommes sur une planète qui a une masse, parce que cette planète, elle tourne autour d'une étoile, le Soleil, parce que le Soleil tourne autour de la galaxie, et la galaxie, elle-même, elle se déplace dans l'univers.
Alors ça fait pas
une différence de temps très très grande, parce que les vitesses, toutes ces vitesses-là, elles sont de l'ordre de maximum 1000 km par seconde, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la vitesse de la lumière, c'est ça qui est important. Ouais. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde, donc ça fait 300 fois moins, donc la différence est faible, c'est quelques...
Mais ça, quand je disais qu'on est pris de vertige quand on vous lit, c'est ça, c'est que quand on est immobile, qu'on ne fait rien sur Terre, que le calme est absolu, qu'il n'y a pas un brin de vent, on se déplace déjà, nous, parce qu'on est sur notre planète qui tourne autour, sur elle-même, autour du Soleil, et que notre galaxie elle-même est en mouvement, on se déplace déjà à plus de 300 000 km.
Pas 300 000 km, 300 000 km par seconde, ça c'est la vitesse de la lumière.
Nous, on se déplace... 300 000 km/h, j'allais dire, c'est pas l'ordre.
Ah, km/h, oui, alors là je veux bien...
On est déjà à cette vitesse-là.
C'est vrai que nous, on parle de kilomètres par seconde. Et donc, voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, on est perdu dans l'espace et on navigue dans l'espace. Et évidemment, on pourrait imaginer, comme on est là sur la Terre, nous, on s'en rend pas compte, on peut imaginer encore que tout tourne autour de nous. Mmh. Mais, si on tient compte de l'évolution, on sait qu'on est sur une planète qui s'est formée dans un disque autour du Soleil. Et donc, on bouge.
Ouais. Et alors, avec tout ça, avec toutes ces notions que vous nous donner. Aujourd'hui, les physiciens se demandent, est-ce que vraiment le temps existe? Vous répondez quoi,
ça,
vous, à cette question?
Ça, c'est la grande question. Alors moi, je vais vous dire que c'est une chose importante pour moi, quand on est scientifique, c'est de bien dire qu'on ne sait pas tout, et chaque réponse à un sujet ouvre de nouvelles questions. Mmh. Et cette question, est-ce que le temps existe? J'ai une discussion à ce sujet, je peux pas vous répondre oui, le temps existe, oui, le temps n'existe pas. Mais je peux simplement expliquer ce que ça veut dire. Pourquoi on se pose la question, est-ce que le temps existe?
Oui. Déjà, rien que c'est la question est surprenante.
Ben voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet temps. Il n'y a pas d'objet temps. Si vous voulez mesurer du temps, on l'a bien vu avec toute cette histoire de calendrier, vous devez faire référence à quelque chose. Mmh. Référence aux astres, référence à un atome. Vous mesurez le temps, par exemple, chez les Romains, on avait ce qu'on appelait des clepsydres. C'est une sorte de vase avec l'eau qui s'écoulait. On mesurait le temps par rapport à l'écoulement de l'eau. C'est toujours le temps par rapport à autre chose.
En fait, c'est des durées, en fait.
C'est un rapport. Ouais. C'est un rapport de quelque chose à quelque chose d'autre. Mmh. Donc, est-ce que c'est une existence? Et là, les gens se posent vraiment la question parce que ça revient aussi. Mais alors, on arrive à justement cette question de l'origine. Mmh. Parce que l'origine de l'univers, en tout cas dans ce qu'on imagine actuellement, c'est aussi l'origine du temps. Mmh. Et donc, le temps, il y a quelque chose qui est venu, qui a émergé. C'est une émergence, c'est-à-dire que ça n'existait pas, puis tout d'un coup ça a existé. Mmh. Quelque chose qui est devenu et qui finalement correspond à l'image que nous nous faisons de notre évolution, de la naissance, la vie, la mort et de nos rendez-vous, et donc qu'on nomme le temps. Mmh. Mais qu'est-ce que ce temps, et est-ce qu'il existe vraiment, et est-ce qu'il a toujours existé? Ça, c'est une question qui se pose vraiment concrètement chez les scientifiques actuellement.
Ah, mais il y a aussi des questions qui se posent chez les auditeurs qui vous écoutent. Sylvie Vauclair, en ce moment, Jean vous demande, espace et temps forment-ils un couple forcément indissociable?
Quand vous regardez le ciel, c'est une réponse que je vais faire, et il y en a d'autres. Quand vous regardez le ciel, vous observez des étoiles, des galaxies, vous observez des objets célestes dans l'univers. Vous les voyez forcément dans le passé. Vous les voyez forcément dans le passé parce que il a fallu du temps pour que la lumière quitte l'objet que vous regardiez et vienne jusqu'à vous. Donc quand on observe l'espace, forcément le temps et l'espace sont reliés. Et quand on étudie justement on disait tout à l'heure que quand vous observez la manière dont les choses évoluent pour un cosmonaute, par exemple, qui s'éloigne de vous, vous avez un temps, vous mesurez un temps qui n'est pas le même que ce que le cosmonaute mesure lui-même sur place. Et ça, c'est lié à l'espace, c'est lié à la vitesse, c'est lié à l'espace. Donc l'espace et le temps, dans tout ce qui concerne l'évolution de l'univers, l'espace et le temps sont toujours liés. Mais il y a une très grande différence. C'est que dans l'espace, vous pouvez avancer et reculer. Dans le temps, vous ne pouvez pas avancer et reculer. Donc le temps, on parle du temps comme quatrième dimension, mais ce n'est pas le même genre de dimension tout à fait que les dimensions d'espace. Et c'est ça qui est très interpellant.
Et alors dans cette succession d'étapes du temps, on va vers une certaine complexité, une complexité qui, en tout cas sur Terre, a abouti à l'apparition de la vie. Et ça aussi, c'est une des grandes questions que vous posez dans votre livre, et vous allez nous en parler dans un instant. Les questions que suscite l'apparition de la vie pour l'astrophysicienne que vous êtes, Sylvie Vauclair. Vous écoutez France Inter, La Tête au Carré.
Ta famille, tu as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague incolore. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Garde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent, pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Voilà une question qu'on est en droit de se poser dans cette tête au carré. Sais-tu vraiment qui tu es? C'était Pierre Lapointe.
La tête au carré.
En nous enfonçant dans l'univers, nous devons nous projeter bien au-delà de notre propre existence. Nous ne devons pas penser en tant qu'individu. N'entre pas docilement dans cette douce nuit.
Avec Daniel Fievé sur France Inter.
Suite et fin de La Tête au Carré en compagnie de l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, auteure du livre intitulé De l'origine de l'univers à l'origine de la vie, une virgule dans l'espace-temps. La virgule dans l'espace-temps, on le disait hein, en introduction, c'est l'être humain. Ça rend humble de regarder le ciel.
Oui, la virgule c'est nous et c'est exactement ce qu'on disait là. Qui sommes-nous finalement? Finalement c'est ça qui nous intéresse. Autant, tous autant que nous sommes, c'est « mais qui suis-je ? Qui suis-je ? Pourquoi suis-je moi ? Pourquoi est-ce que je nais ? Pourquoi est-ce que je meurs ? Et qu'est-ce que je fais ici sur cette terre ?» Donc c'est tout ce que je mets dans la virgule.
Richard,
je n'ai pas de réponse à ça,
évidemment,
je le dis tout de suite.
Hein.
J'ai beaucoup de réponses, mais comme je disais tout à l'heure, les réponses ouvrent de nouvelles questions.
Oui, il y a beaucoup, évidemment beaucoup de questions qui restent en suspens dans votre livre. Richard vous demande « est-ce que la vie est une organisation spécifique de la matière qui lui permet de prendre conscience d'elle-même ?» Et c'est vrai que dans votre livre, vous l'abordez, cette question de l'origine de la vie.
Oui, mais là, disons, la question telle qu'elle est posée est un petit peu d'ordre philosophique, plus que scientifique, et je pense que c'est une question de conviction personnelle. Moi, je ne peux pas répondre à la question de la conscience. En revanche, une chose qui me frappe énormément, c'est que le vivant est fait à base de d'atomes. D'atomes qui se sont mis ensemble pour former des cellules, qui se sont mis ensemble pour former des macromolécules et finalement ce que nous sommes, notre corps. Et ces éléments les plus importants du vivant sont les éléments aussi qui sont les plus importants, les plus abondants dans l'univers. Donc, comme disait Hubert Reeves, nous sommes faits de poussière d'étoiles, sauf que, et là je rejoins la question de l'auditeur, sauf que ce qui fait la complexité de ce que nous sommes, c'est pas les atomes en eux-mêmes. Les atomes en eux-mêmes, ils sont fondamentaux, c'est les briques de base, mais c'est la manière dont ils sont organisés. Et ça, c'est extraordinaire quand on voit comment des atomes de base sont organisés. Et quand on voit l'ADN, comment c'est fait avec, c'est un peu compliqué, mais il y a ce qu'on appelle des bases azotées. Il y en a quatre, ce qui fait le génome, enfin, l'organisation de ça. Et vous en prenez deux, et elles sont toutes faites de carbone, d'azote, d'oxygène, et puis des petites choses en plus, d'hydrogène et des petites choses en plus. Vous en prenez deux, vous les inversez, vous changez l'ordre, et vous avez des caractères complètement différents. Et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Alors, je ne vais pas jusqu'à la conscience parce que je n'ai pas de réponse à ça. Mais le fait que la vie, ce soit une organisation extraordinaire des atomes qui ont été fabriqués dans l'univers avant la naissance de la Terre, ça, je trouve ça absolument fabuleux.
Oui. Ce qui est aussi fabuleux en vous lisant, c'est cette complexité vers laquelle semble aller notre univers. Si on reprend, alors prenons le temps de refaire en accéléré, évidemment, le scénario, cette succession d'étapes qui conduit à la formation de notre monde, puis à l'apparition de la vie. Mais alors, on revient au tout début.
Le tout début, c'est pas un temps zéro. Le temps zéro n'existe pas parce que le temps a toujours un intervalle minimum, disons. Hein, et là, c'est ce qu'on appelle le temps de Planck. Ce serait un petit peu long à expliquer, mais on peut pas partir d'un temps zéro, mais on part d'un temps très, très, très court. Ouais. 10 à la puissance moins 43 secondes, je ne sais pas si ça peut dire quelque chose aux gens, mais c'est vraiment très très petit, mais c'est pas zéro. À cette époque-là, parce que à partir du moment où on peut imaginer que le temps s'écoule, on peut construire ce scénario, et à cette époque-là, eh bien, l'univers était rempli de particules de matière, des particules qui étaient très très chaudes, c'était très très dense, donc des particules qui n'existent plus actuellement, et puis de la lumière. Donc il y avait de la matière et de la lumière mélangées, et tout ça, c'était comme une soupe primordiale, c'est-à-dire sans structure, sans rien, sans complètement homogène. Et cet univers évolue. Et donc, c'est refroidi.
Mais à partir
et puis,
de quand
est devenu de moins en moins dense. Mais justement, alors, tout découle de là. Et à partir d'un certain moment, il y a des particules qui se mettent ensemble pour former des premiers éléments. Donc, le deutérium, l'hélium. Vous savez, l'hélium qu'on a dans les ballons, que les enfants dans les ballons, il y en a beaucoup qui viennent du Big Bang. Et ça, c'était après 15 minutes.
Dater 15 minutes après le
tout début. Oh, attendez,
c'est
pas 15 minutes, 0 seconde. Mais approximativement, oui, on est capable de dater ça. Et c'est court.
Les premiers éléments, 15 minutes.
Avant 15 minutes. Et ensuite, après, il y a beaucoup d'événements qui se produisent. Mais un événement important, c'est à 300 beaucoup plus tard, 380 000 ans, beaucoup plus tard, mais pas grand-chose par rapport à l'âge de l'univers actuel. Et à 380 000 ans, la lumière s'est séparée de la matière. Et ça, c'est très important parce que cette lumière qui s'est séparée de la matière à cette époque-là, on la voit toujours. On la voit toujours, sauf que c'est pas de la lumière visible à l'œil, c'est de la lumière qu'on détecte avec des radiotélescopes et qui nous donne beaucoup d'informations sur ces premiers instants de l'univers. Et puis après, beaucoup plus tard, elles sont venues les premières galaxies avec les premières étoiles. Et puis au bout de environ 9 milliards d'années, la naissance du système solaire. Mmh.
Ça a plutôt ralenti la complexification. Au bout de 15 minutes, on a les premières briques, les premiers atomes, ça, et puis après, il faut attendre plusieurs milliards d'années.
C'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est quand on regarde l'univers dans son ensemble, tout va de plus en plus lentement. Quand on regarde ce qui se passe sur la Terre, dans nos sociétés, tout va de plus en plus vite. Ouais. Ça fait vraiment une direction différente. Là, c'est assez étonnant. Ouais.
Alors, la question qu'on se pose, le temps s'écoule, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Quand vous regardez tout ça, vous avez le sentiment que cette succession d'événements, de complexification, il était inéluctable que la vie finisse par émerger, par apparaître un jour.
Ça, c'est vraiment la difficulté. C'est vraiment la difficulté. Disons qu'on est capable maintenant de savoir comment se sont formés les éléments chimiques qui ont donné, qui sont à la base de la vie. On est capable d'aller beaucoup plus loin parce que dans l'espace, que ce soit sur des astéroïdes, que ce soit dans la matière, entre les étoiles et tout ça, on trouve des molécules organiques, c'était vraiment celles de la base de la vie, qui sont très complexes. Et on sait, d'un autre côté, étudier l'évolution du vivant, mais il y a un chaînon qui manque, il y a un passage. Comment est-ce que des molécules organiques, par exemple les protéines, les acides aminés, on est capable de fabriquer ça? Et comment est-ce qu'on est passé à quelque chose qui est vivant? Et ça, on ne le sait pas, et alors ça va beaucoup plus loin, c'est quand on cherche un petit peu qu'est-ce que la vie, eh bien on s'aperçoit que c'est pas du tout évident de définir la vie, et que les définitions de la vie, ça dépend des gens, ça dépend des chercheurs, et peut-être qu'il n'y a pas une origine de la vie, mais qu'il y a plusieurs types de vivants qui sont venus, qui ont commencé à des périodes un peu différentes. En fait, tout ça, c'est extrêmement complexe quand on cherche à comprendre le passage de l'inerte au vivant.
Et peut-être que c'est en regardant, là encore, en se tournant vers des mondes lointains, des planètes lointaines, qu'on aura des réponses sur l'apparition.
Alors
de la
là,
vie.
Ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'instant, de tout ce qu'on connaît, il n'y a que sur la Terre qu'il y a de la vie pour l'instant. Mais peut-être qu'il y en a dans des, par exemple, des satellites de glace qui sont autour de Jupiter, qui ont des océans. On sait qu'il y a des océans sous la glace, et comme il y a de la vie extraordinaire dans les abysses sous-marines sur Terre, peut-être qu'on va trouver de la vie là. Et puis, il y a des planètes. Alors ça, c'est quelque chose aussi de fabuleux, c'est qu'il y a des planètes autour des autres étoiles que le Soleil. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a qui ressemblent à la Terre, il y en a qui peuvent avoir de l'eau à la surface. Donc peut-être qu'un jour, on va découvrir de la vie sur d'autres planètes. Et à ce moment-là, évidemment, tout ça, c'est relié avec l'origine de la vie sur Terre pour essayer de comprendre tout ça.
Merci Sylvie Vauclair, c'est passionnant, il y a encore mille choses à découvrir, c'est ce qui est très réjouissant en ce jour de Noël. Je rappelle le titre de votre livre, De l'origine de l'univers à l'origine de la vie, une virgule dans l'espace-temps, c'est paru chez Odile Jacob. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous rendre visite.
Merci et encore joyeux Noël.
En ce 25 décembre. Et merci à Henri Bérec et Valentin Hazan-Zielinski qui étaient à la technique aujourd'hui. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Fabrice nous raconte l'histoire d'une formidable découverte, celle de la grotte de Lascaux, le 12 septembre 1940.
C'est fou ce que le temps passe.